Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on parle maturité, on parle profession, on parle maternité et on parle engagement. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Imane Dahou, bonjour.
Bonjour.
Quel plaisir et quel honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui dans Femme d'aujourd'hui.
Mais écoute, c'est un plaisir partagé.
Alors, Lala Imane, tabarakallah, comme on dit chez nous, tu enchaînes les formations et les diplômes et tout est taxé autour de la défense et de la cybersécurité. C'est bien ça ?
Le fil conducteur, on va dire, de ma carrière, de ma formation, qu'elle soit académique ou professionnelle, ce sont les enjeux de sécurité et de défense. Peut-être que cela trouve un petit peu son origine dans mon histoire familiale. Je suis moi-même fille de hauts fonctionnaires au Maroc qui ont travaillé sur ces sujets ou qui travaillent encore sur ces sujets de sécurité, de justice, ainsi de suite. Donc, j'ai un petit peu baigné dedans. Je suis née et j'ai grandi au Maroc, puis j'ai obtenu mon baccalauréat et je suis allée m'installer à Paris. J'ai passé quelques années en France, nombreuses maintenant, et puis au gré de mes expériences professionnelles notamment, j'ai été amenée à travailler sur des géographies d'abord africaines, puis un petit peu dans toutes les régions chaudes ou compliquées, complexes. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fini par travailler avec le Maroc, pas forcément directement, c'est-à-dire que mon employeur n'a jamais été marocain, mais notamment en cabinet de conseil, j'avais des missions que j'ai pu effectuer au Maroc. Ça, d'une part. D'autre part, bon, ayant des attaches familiales en France, j'étais toujours un petit peu à cheval entre les deux pays, entre les deux continents, ce qui fait que j'ai souvent été aussi invitée via mon cercle, qu'il soit familial ou personnel, et plus tard professionnel, à prendre part à des événements au Maroc. Et puis de plus en plus, une collaboration qui se fait aussi via des canaux, on va dire, plus académiques, que ce soit à travers d'écoles, de programmes de formation ou de forums internationaux qui sont organisés en Afrique, au Maroc, dans lesquels je vais intervenir. Donc voilà, et puis aussi par l'intermédiaire de la voix associative, donc à des organisations au Maroc qui travaillent sur des sujets qui m'intéressent, qui vont me solliciter, pour lesquels je vais faire quelques interventions, ou des organisations qui se trouvent en Europe et qui s'ouvrent vers l'international et notamment vers le Maroc, et pour lesquelles, de la même manière, je peux faire également des interventions.
Et tes interventions, elles sont dans le but d'informer, de former?
Oui, absolument, les deux. Alors, tout à l'heure, tu faisais allusion au fait que j'ai une formation en cybersécurité, certes. Ouais. Donc, d'abord, en sécurité, en relations internationales, en stratégie militaire, en armement. Et puis, ce fil conducteur qui est un peu ces enjeux de sécurité et de défense m'a conduit à faire de la cybersécurité et plus tard d'intégrer des cabinets de conseil, notamment les plus grands, au sein desquels j'ai pu développer un peu plus en détail ou un peu plus en profondeur, j'allais dire, cette spécialisation. Et aujourd'hui, ça reste un sujet qui, comment dire, reste ou pose encore pas mal de questions pour le commun, pour les personnes qui ne connaissent pas beaucoup. C'est un sujet qui a encore réputation d'être plutôt technique, plutôt un sujet d'ingénieur, alors qu'en réalité, il est au cœur de tout. Oui, on va trouver plus d'hommes que de femmes dans ces domaines-là. Mais ce qui est génial au Maroc tout de même, c'est qu'on va avoir beaucoup de femmes ingénieurs, autant de femmes ingénieurs que d'hommes ingénieurs au Maroc. Mais l'idée, c'est de les attirer peut-être aussi vers ce domaine de la cybersécurité, de leur expliquer que ce n'est pas uniquement de l'informatique, que ce n'est pas uniquement le hardware, mais c'est également un sujet qui est au cœur de tout, au cœur de nos enjeux de sécurité et de défense, au cœur des sujets technologiques. Et donc, raise awareness sur ces sujets-là, donc la partie information à laquelle tu faisais référence, mais également former, c'est-à-dire que parfois, il peut y avoir des étudiants, que ce soit en école d'ingénieurs, de cybersécurité, qui font du droit aussi, parce qu'il y a toute la question de la protection des données, ainsi de suite, des étudiants en relations internationales qui s'intéressent aussi à ces sujets-là. L'idée, c'est de leur expliquer la pluralité des métiers, donc cette palette tout en un camailleux de spécialisation qui est possible de faire en embrassant ou en intégrant cette spécialisation ou ce domaine-là qu'est la cybersécurité.
C'est ça. Mmh. Et en plus, incarné par une femme et une femme marocaine. Donc, elles peuvent s'identifier à toi.
Absolument, absolument. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal de choses et pas mal de rôles modèles au Maroc qui font de la cybersécurité. Hein. Je pense à énormément de femmes que je connais et qui sont des forces incroyables de la nature, je trouve vraiment, et qui vont pousser en ce sens pour attirer des jeunes filles ou des femmes en reconversion marocaine, mais également dans un spectre plus large africain. Et je trouve ça génial.
Absolument. Alors, justement, toi, tu as dit tout à l'heure, on restreint ça à un profil d'ingénieur vraiment technique, alors qu'il y a une panoplie. Toi, comment tu as découvert justement tout l'arbre et pas uniquement le tronc?
Alors, peut-être d'abord parce que à la base, je n'ai pas entrepris d'études d'ingénieur ou d'informaticienne ou autre. Ouais. Comme je t'ai dit, j'ai fait des relations internationales, j'ai fait du droit, des sciences politiques. Et puis, au gré de mes expériences professionnelles, je me suis retrouvée déléguée générale adjointe du Haut Comité français pour la défense civile. Et lorsque j'occupais ce poste-là, je travaillais beaucoup avec le gouvernement français pour lequel j'organisais les exercices de gestion de crise, alors notamment les plus connus, Vigipirate, Piranet, ainsi de suite. Et lorsqu'on organisait ces exercices-là, on travaillait avec notamment l'ANSSI, donc qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en France, et avec lesquels il fallait imaginer des scénarios avec des dimensions cybersécurité. Donc ça a été la première fois que je touchais concrètement à ce sujet-là. J'en avais évidemment parcouru quelques-unes des grandes lignes dans mes études, mais c'est la première fois que j'allais pratiquer la discipline et que je m'apercevais qu'en réalité, c'est tout un écosystème, qu'évidemment, il y avait besoin de comprendre certains principes importants, mais qu'on pouvait toutefois, sans être ingénieur, travailler dans ce domaine-là. Donc, je commençais à travailler, à préparer tous ces exercices-là, en collaboration avec l'ANSSI en France. Et puis, mon profil était tel que il a attiré des grands cabinets de conseil, notamment Deloitte, que j'avais intégré. On m'a fait confiance, j'arrivais avec mon background, mais sans vernis spécifiquement cyber. Et puis on m'a formée et j'ai eu la chance de rejoindre une équipe superbe qui était très bienveillante, qui m'a énormément poussée. Alors j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup travaillé aussi. Attention, ça ne s'invente pas. Il faut à un moment donné, il faut apprendre et monter en compétences. Et tu disais en préambule, pour moi la formation c'est toute la vie, les diplômes aussi. Je ne vois pas pourquoi après un master 2 ou un doctorat il faudrait s'arrêter, pas du tout. Donc je me suis challengée, j'ai passé mes certifications, j'ai compris comment fonctionnait cette architecture cyber, ce que ça voulait dire, les grands principes. Et puis, au fur et à mesure, au gré des expériences, notamment beaucoup d'expériences en Afrique et au Maroc, J'ai commencé à avoir d'abord confiance en moi sur ces sujets-là, puis avoir une légitimité qui a fait que aujourd'hui je fais de la cybersécurité. Je ne suis certes pas la meilleure des techniciennes, mais en revanche, sur des sujets plus strates, plus de management, parler à des C-levels, travailler sur des politiques, des roadmaps sur plusieurs années. Là, je vais être très bonne et je vais m'entourer d'équipes techniquement très fortes et ensemble, on pourra atteindre des objectifs qu'on va se fixer et qu'on va atteindre.
Alors, je sais qu'on ne pose pas la question à une femme, mais tu as quel âge, Imen ?
Pourquoi ne pas poser cette question? Parce que je suis très heureuse.
Parce que les femmes, en général, n'aiment pas qu'on leur pose la question, mais moi, je la pose parce qu'on est entre nous et on est entre femmes. Et en fait, je te pose la question parce que là, tu as réussi cette carrière, tu es encore jeune, en fait. Tu as quel âge exactement?
J'ai 35 ans. Je ne suis pas de la première jeunesse, mais je suis absolument ravie d'avoir 35 ans et j'espère que demain, à 75 ans, je serai très heureuse de dire j'ai 75 ans et j'ai pu faire telle et telle chose. Au contraire, je trouve que c'est un privilège de prendre de l'âge, de gagner en maturité, d'avoir toute cette expérience et puis de give back à la jeunesse, aux personnes qui ont pu aussi nous apprendre et nous aider dans notre ascension. Je suis très fière, au contraire, de dire mon âge.
Absolument, mais qui est très jeune, ce Bartla. Voilà, par rapport à... On a pratiquement 10 ans d'écart, donc moi, j'estime qu'il est très jeune et qu'il y a eu de belles réalisations et aussi une maturité professionnelle et surtout une crédibilité, tu l'as dit tout à l'heure. Comment tu as construit tout ça et qu'est-ce que ça t'a coûté, en fait ?
Alors d'abord, merci. Merci pour ces mots que tu as à mon égard et qui me touchent. Ce que ça m'a coûté... Alors, Elle est bien orientée, cette question-là. Je dirais pas que ça m'a coûté, au contraire, ce que ça m'a apporté. Je pense que il y a deux choses. D'abord, une histoire personnelle. J'ai la chance, d'avoir une maman qui est absolument formidable et qui m'a quelque part toujours dit, ou en tout cas toujours montré sans me dire que les femmes, elles sont là pour réussir et qu'il faut réussir, qu'il n'y avait pas une autre option, d'accord ? Alors, j'estime pas encore avoir réussi aussi fort que j'aimerais réussir, hein. C'est un apprentissage et une ascension, hein. Mais j'ai eu la chance d'avoir une maman qui elle-même est un immense rôle modèle, je pense, pour beaucoup de femmes et surtout pour ses filles et sa petite-fille, puisque moi-même, je suis maman. Et puis d'autre part...
Tu nous donnes son nom et son prénom ?
À ma mère ?
Oui.
Oui, bien sûr. Alors c'est Maître Fatema Banassi qui est un grand magistrat marocaine qui, a fait de très 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 belles choses et qui continue aujourd'hui à faire de très belles choses. Voilà, je suis très fière d'elle. Et alors...
D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit chez nous ? On dit « Mnindak l'gsiyen, mdak shjara ».
Barakallahu fik. C'est une grande fierté. J'espère continuer à marcher dans ses pas. Et par ailleurs, le combat que j'ai dû mener, c'était un combat contre moi-même et contre les limitations qu'on peut s'imposer soi-même. Je pense que on peut atteindre tous les objectifs qu'on se fixe avec évidemment beaucoup de travail, en étant bien entouré, en ayant aussi les bons mentors, les bons sponsors. Mais c'est surtout de se dire qu'on est capable de choses. Peu importe la chose qu'on veut atteindre, il y a certainement une raison, un objectif. Et puis ensuite, se donner les moyens, travailler pour atteindre les objectifs. Mais je pense que la réelle... mon émancipation, on va dire, ma courbe ascendante plus, ça a été, ça coïncide avec le moment où je suis devenue maman. Okay. Parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte de ma force réellement. Si je suis capable de porter la vie, de donner la vie et d'élever, de remplir d'amour cette petite fille, c'est que vraiment personne ne peut m'arrêter ni m'atteindre. Et oui, je pense que c'est à ce moment-là que donc il n'y a pas très longtemps en réalité que je me suis que j'ai découvert que je n'avais absolument aucune limite et en tout cas que les limites ne me faisaient pas peur.
Et pourtant, pour beaucoup de femmes et de jeunes femmes, la maternité arrive justement avec ce sentiment de attention. Et si j'étais pas assez présente, si j'étais pas assez bonne mère, est-ce que la maternité veut dire baisser ses attentes par rapport à sa propre évolution?
Oui, je comprends bien. C'est souvent ce qui se passe, hélas. Et c'est souvent les exemples qui sont donnés sont un petit peu de cet ordre-là. Et je trouve ça malheureux. Alors aujourd'hui, si j'ai un message à porter, un message d'espoir, un message peut-être plus positif et optimiste, c'est qu'au contraire, avec le bon mindset, je pense que ça peut être très émancipateur. Très émancipateur parce qu'on se trouve en réalité dans... En tout cas, à titre personnel, j'ai vécu ça comme une pleine puissance. Mmh. Je me suis aperçue de cette force incroyable de la nature que j'avais au fond de moi et que rien ne pouvait m'arrêter. Alors, je ne sais pas si toi-même tu es maman, si c'est le cas, tu dois savoir de quoi je parle. Mmh. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas mamans... et qui peuvent se poser ces questions-là, moi, je pense que ça peut aussi être très émancipateur. Mais encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui en plus a eu 3 enfants. Moi, j'en ai qu'une seule et qui a toujours réussi à concilier vie privée, vie familiale et qui a fait une très belle carrière. Donc pour moi, pour être un rôle modèle pour ma fille, eh bien, il faut que je sois bien professionnellement, que j'excelle professionnellement. Moi, j'ai pas peur et je me cache pas de dire que je vise l'excellence. Mmh. Dans tout ce que je fais, je veux être excellente parce que j'ai eu ce modèle-là et parce que je veux donner ce modèle aussi à ma fille.
En fait, c'est une transmission. Oui, complètement. C'est une transmission du modèle. C'est tout naturel pour toi parce que tu as grandi dans ça. Et finalement, qu'est-ce que ça vient rappeler? Ça vient rappeler que c'est l'environnement aussi qui façonne et non pas, voilà, beaucoup plus que la société. C'est-à-dire que la société a beau avoir un certain mindset, quand l'environnement proche fonctionne différemment, eh bien ça donne une jeune femme comme toi. Voilà.
Complètement. C'est une histoire de valeurs. Après, on a tendance à oublier que malgré tout, on a des racines africaines, arabo-africaines, où les femmes, malgré tout, sont des matriarches en Afrique. Hein. Alors certes, on a malheureusement aussi du patriarcat qui demeure, mais les femmes ont tout de même une place assez importante dans nos sociétés. L'idée, c'est de pouvoir se donner les moyens de se réapproprier aussi ce récit de force, de toute puissance féminine qui fait que, même en devenant maman, si on a... Alors, évidemment, il faut choisir le bon partenaire aussi, hein, ça ne se fait pas aussi, ça ne se fait pas tout seul, ou peut-être avoir des gens derrière qui nous aident, une famille, des amis qui nous entourent pour nous pousser vers la réalisation de nos objectifs, quels qu'ils soient. Ça peut tout aussi être une mère qui décide, qui fait le choix de rester ou de devenir mère au foyer, qui est un choix tout à fait honorable. Mais voilà, si je décide de devenir maman au foyer, quels sont mes objectifs? Quelle est l'éducation que je veux donner à mes enfants? Quel est le foyer que je veux tenir? Enfin, l'idée, c'est simplement d'avoir ses rêves, ses objectifs et ses ambitions et de les atteindre. Et la maternité doit être aussi un vecteur de réussite, peu importe l'objectif ou le rêve, je pense.
Oui. Toi, tu fais comment, puisque tu es loin de la petite famille, loin du support, voilà, du système de support. Tu fais comment? Avec un boulot, j'imagine, prenant.
Oui, absolument.
Voilà. Tu fais comment pour pouvoir vivre ta maternité sereinement? Est-ce que, j'imagine, en fait, il y a toujours ces moments où on a ces petits doutes, peut-être, où on a peut-être un peu de culpabilité et on balaye ça d'un revers de la main quand on a envie de tracer. Ou c'est des sentiments que tu n'as jamais.
Alors, c'est une question qui est complexe, hein, bien sûr. Je pense que S'agissant des sentiments, c'est jamais linéaire. Ouais. De la même manière qu'on évolue, et moi j'ai beaucoup évolué, surtout en devenant maman, et je continue, hein, je pense que c'est un récit de toute une vie et qui ne s'arrête jamais. Les états d'âme, les sentiments, les envies, elles sont changeantes aussi. Mmh. Je pense qu'il faut s'écouter et faire preuve de bienveillance avec soi-même. Je suis très exigeante au travail. J'ai été extrêmement exigeante avec moi-même. Mais aujourd'hui, je prends du recul pour me dire je peux aussi être un peu plus bienveillante avec moi-même, un peu plus, surtout pas laxiste, mais comment dire, permissive. À bien des égards. Alors, je ne vais pas te mentir et te dire que c'est un long fleuve tranquille et c'est super et je gère tout comme superwoman. Non, c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile parce que je n'ai pas de famille proche à proximité. Je n'ai pas certains privilèges qu'on peut avoir au Maroc et qu'on n'a pas ici. Mais bah, je vais faire des choix. Hein. Je vais faire des choix et c'est aussi l'intérêt d'avoir peut-être un papa qui peut décharger par moment et pour que, admettons, si j'ai un déplacement professionnel d'une semaine, bah je sais que derrière, je peux compter sur lui.
Oui.
Puis voilà, on hiérarchise, on fait des choix. Le tout, c'est de rester cohérent et surtout se dire que c'est pas grave, que rien n'est figé dans le marbre. Et si cette organisation-là ne convient plus, bah, faut être suffisamment malléable pour modifier et prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer. Donc c'est un jeu d'équilibriste.
Mendahou, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Eh bien, c'était un plaisir. Merci beaucoup.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média 1 et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.